Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovin, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Nasser Moussaoui. Alors que les mauvaises nouvelles rythment notre quotidien, prenons un peu de chant et cédons sans vergogne au vice de la comparaison. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console, dit l'adage. Alors nos voisins s'en sortent-ils mieux ou moins bien que nous? Pour le savoir, direction le Royaume-Uni demain, la Pologne mercredi et l'Espagne jeudi. Mais d'abord, comme chaque lundi, nous cédons à un autre vice, celui de l'actualité. LVMH a suspendu le rachat du joaillier américain Tiffany, tandis que Veolia se lance à la conquête de Suez, des opérations qui montrent que la crise a rebattu les cartes entre les entreprises. Le Covid accélère-t-il la concentration du capitalisme? C'est notre question du jour. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous parlons aujourd'hui des mariages d'entreprise en compagnie de trois économistes. Emmanuel Combes, professeur d'économie à Paris 1 et vice-président de l'autorité de la concurrence. Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Et Philippe Askenazi, chercheur au CNRS. À 14h45, un nouveau livre pour votre bibliothèque de l'écho, un désir de communisme de l'économiste et sociologue Bernard Friot.
Est-ce que vous aimez ?
Si j'aime quoi?
Tiffany, c'est pas magnifique? Il me semble que rien de désagréable ne peut arriver dans un magasin de ce genre. En réalité, je me fiche des bijoux, excepté les diamants, bien entendu.
Non, je vais vous acheter un petit quelque chose. Vous m'avez fait cadeau d'un ruban de machine qui m'a porté chance.
D'accord, monsieur Tiffany, les bijoux ne se donnent pas pour rien.
N'oubliez pas que j'ai reçu un chèque et j'ai 10 dollars.
Je crains, hélas, qu'on ne trouve pas grand-chose chez Tiffany pour 10 dollars.
Tiffany, c'est un icône de l'Amérique. C'est un secteur porteur, c'est un secteur qui attire beaucoup. Alors, d'abord, ça n'est pas une affaire à redresser. C'est une affaire qui fonctionne bien, c'est une affaire qui réalise un chiffre d'affaires important et un bénéfice substantiel. C'est une entreprise qui doit, avec nous, améliorer encore à long terme, c'est ça mon objectif, sa désirabilité. C'est un peu ce que je veux faire, ce que je cherche à faire avec mes équipes pour l'ensemble de mes marques. Je leur dis toujours, ce qui doit vous préoccuper tous les matins, c'est, par exemple, pour Louis Vuitton ou pour Dior, aura-t-on une désirabilité encore plus forte dans 10 ans? Tiffany, c'est le marché américain à l'origine, c'est encore la première marque américaine de luxe de très loin, peut-être une des seules d'ailleurs. C'est une marque qui est très forte au Japon et qui est moins forte en Europe, où là il y a beaucoup de potentiel de développement, et un peu moins forte aussi en Asie. Et c'est là où la proximité avec le groupe LVMH va lui permettre de se développer de manière plus rapide, plus efficace, en bénéficiant évidemment de l'atout de participer au premier groupe de luxe mondial pour les emplacements de magasins, pour les achats d'espaces publicitaires, etc., etc.
Emmanuel Combes, Sylvie Matelli et Philippe Askenazi, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez reconnu le film Breakfast at Tiffany's de Blake Edwards avec Audrey Hepburn, suivi d'une interview de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, qui expliquait le 26 novembre 2019 les avantages pour Tiffany et pour le géant français du luxe de ce projet de rachat. Les deux protagonistes avaient intérêt à ce deal à 15 milliards d'euros, Sylvie Matelli.
En tout cas, c'est l'analyse qu'en avait fait Bernard Arnault chez LVMH, puisqu'il vient de l'expliquer à l'instant. Mais je crois que c'était avant. C'était dans ce qu'on appelle le monde d'avant communément. Et les choses ont beaucoup bougé et les cartes ont probablement été rebattues en la matière. Vous parliez tout à l'heure de ce Covid et de ce que ça changeait. Comme beaucoup de sujets, en matière de fusion-acquisition, en fait, ça ne fait qu'accélérer des tendances qui étaient déjà observables par le passé. Une vague de fusion-acquisition s'était ouverte en 2015-2016. La Chine n'y était pas étrangère, d'ailleurs, avec des prises de participation. Et on voyait déjà déjà les choses se redessiner, un certain nombre de lignes bouger. Et je crois que cette période va entraîner encore d'autres mouvements, mais peut-être des mouvements un petit peu différents, parce que pour le coup, dans la pandémie et la crise économique qui en découle, on observe des secteurs qui ont profité de cette crise et donc d'autres qui au contraire n'ont pas pâti.
Les projets de fusion-acquisition, effectivement, se multiplient depuis l'été. Il faut y voir une accélération d'une tendance préexistante pour vous aussi, Emmanuel Combes.
Oui, il y a une tendance de fond. Et ce qui est intéressant dans l'affaire LVMH, Tiffany, parce que je crois qu'on peut parler d'affaires avec les événements récents qui ressemblent un peu d'ailleurs un coup de poker, on n'est pas complètement convaincu par l'argument qui est donné, c'est de regarder un petit peu les motivations de fond des fusions-acquisitions. Et je trouve que le luxe est un bel exemple. J'en tire au moins deux enseignements. Premier enseignement, dans une industrie comme le luxe, qui est beaucoup fondée sur l'histoire, sur les marques, vous pouvez rarement faire de la croissance interne. Croissance interne, ça veut dire lancer sa propre marque. Il vaut mieux racheter l'existant. En réalité, en rachetant Tiffany, LVMH mettait la main sur une marque prestigieuse américaine. Donc, il y a ce premier aspect. La fusion-acquisition permet d'acquérir des marques, des potentiels, des compétences qui sont difficilement reproductibles, si ce n'est avec beaucoup de temps. Donc, la fusion-acquisition est un peu obligatoire, si j'ose dire. Et on sait qu'en matière de luxe, les entreprises sont relativement peu nombreuses. On est déjà sur un marché très oligopolistique. Et puis, secondement, et ça, c'est assez intéressant, dans le secteur du luxe, il y a une spécificité des fusions-acquisitions. On s'aperçoit que les entreprises les plus rentables, en général, on dit que les entreprises les plus rentables ne font qu'un seul métier. Eh bien, vous regarderez quelles sont les deux entreprises les plus rentables au monde, c'est LVMH et Richemont, le Suisse, et ce sont des entreprises conglomérales, c'est-à-dire qui ont en fait un portefeuille de marques extrêmement diversifié. Donc, au fond, l'opération, dans son fondement, était assez légitime. On est sur un marché où les pépites sont rares, on peut peu faire de croissance interne, et Tiffany est un peu une entreprise, si j'ose dire, monoproduit, parce qu'elle est essentiellement présente sur le marché de la joaillerie.
Et alors, ce que vous appelez l'affaire, Emmanuel Combes, c'est le fait que le projet a été suspendu, donc effectivement, par LVMH, qui a justifié sa décision par une lettre du ministère français des Affaires étrangères, lui demandant de reporter l'opération au-delà du 6 janvier, en réaction à la menace de taxes sur les produits français formulée par les États-Unis. Qu'est-ce que cette lettre nous dit, peut-être, de la nouvelle stratégie française dans la guerre commerciale avec les États-Unis, Philippe Askenazy?
Alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Moi, j'ai plutôt une interprétation qui est totalement inverse. C'est-à-dire qu'on est face à un géant du luxe qui a un poids économique et de lobbying extrêmement puissant en France et qui a obtenu du politique un tel courrier pour pouvoir se dédire sur un engagement qu'il avait pris avant la crise du Covid. Donc c'est pas du tout la politique industrielle française ou des problématiques diplomatiques entre la France et les États-Unis, mais bien la preuve que justement on est dans une économie, et pas uniquement l'économie française, qui est dominée par des géants qui ont un poids tels qu'ils peuvent même influer sur des décisions politiques, et notamment d'un ministre des Affaires étrangères.
Emmanuel Combes.
Pour rebondir sur ce que dit Philippe, on ne peut pas exclure, même si personne n'a l'information, que le but de l'opération soit en fait de renégocier le rachat de Tiffany à un prix beaucoup plus abordable, parce qu'entre les deux, s'est passée la crise du Covid-19 et je crois des résultats de Tiffany qui ont été jugés décevants. Donc il y a peut-être aussi un jeu de billard à trois bandes assez subtil de la part de LVMH.
C'est davantage à cause des conséquences de la crise du Covid qu'à cause de la guerre commerciale, Sylvie Mathieu.
Et un cours de Tiffany qui a perdu 26% et donc qui devient une très mauvaise affaire si on reste sur ce qui avait été proposé avant la crise du Covid par LVMH, ça devient une très mauvaise affaire pour LVMH effectivement. Et l'argument qui a été donné de ce soutien à une stratégie française pour imposer ou pour pouvoir négocier avec les Américains est d'autant plus étonnant que le dossier sur la taxation des GAFA est plutôt dans les mains de Monsieur Le Maire que du ministre des Affaires étrangères. Donc on est là sur quelque chose qui étonne un petit peu et qui n'est pas cohérent puisque M. Le Maire a semblé étonné de ce qui s'est passé ces derniers jours.
Il faut peut-être rappeler que c'était une manière de répondre à une menace américaine sur des produits français, Sylvie Matelli, en lien justement à cette taxe décidée unilatéralement par la France sur les GAFA.
Tout à fait. Et là où l'argument dans un premier temps peut paraître cohérent, c'est que c'est vrai, on sait que depuis des mois, voire des années, les Français cherchent effectivement, et les Européens en général, cherchent des instruments qui qui pourrait permettre de contrer la toute-puissance de l'économie américaine et donc des négociateurs et des politiques américains. On parle souvent d'extraterritorialité, ça rejoint tous ces dossiers. Cependant, sur LVMH, ça n'est pas un cas unique qui se retrouve dans une négociation pour une fusion ou une acquisition sur une affaire qui n'est plus aussi bonne que par le passé. Suivez, il y a un dossier à peu près similaire aux Pays-Bas en ce moment, avec le rachat par Essilor Luxottica de Grande Vision. Et les Français, les Franco-Italiens qui ont demandé également à renégocier parce que Grande Vision n'est plus du tout une bonne affaire.
On voit que se jouent des questions à la fois économiques, politiques et géopolitiques dans ces fusions-acquisitions, Emmanuel Combes.
Alors le jeu est d'autant plus, je rejoins ce que disait juste à l'instant madame, mais le jeu est complexifié par le fait que d'un côté on a tous intérêt à faire baisser les prix d'achat après la crise du Covid. En même temps, comme on est sur des marchés très oligopolistiques, il y a peu de perles rares. Et donc attention, l'entreprise que je ne rachète pas, c'est prendre le risque que mon concurrent la rachète.
Et ça, à savoir Richemont.
Exactement, ça serait intéressant de voir quelle va être la riposte, vous venez de le dire, de Richemont, le numéro 2 mondial suisse, à cette annonce de retrait de l'offre de LVMH. Donc attention, en même temps, c'est un jeu où celui qui retire son offre court le risque de passer à côté d'un actif qui n'est, je le répète, qui est quasiment reproductible, en tout cas dans un temps raisonnable.
L'autre grand feuilleton de la rentrée, c'est la tentative de Veolia de conquérir Suez, son rival historique dans le secteur de l'eau et des déchets. Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a annoncé vouloir construire le champion mondial de la transformation écologique, un géant français pesant plus de 40 milliards d'euros. L'objectif, Philippe Askenazy, c'est notamment de faire face à la concurrence chinoise notamment.
Oui, alors c'est ce qui est affiché. Alors là, pour le coup, il y a une vraie politique de la part de l'État, et on parlait de Bruno Le Maire, il soutient de manière explicite cette fusion entre deux entreprises françaises. On n'est pas sur un achat d'une entreprise aux États-Unis ou en Chine, ou un achat par des Chinois d'entreprises françaises. Donc là, ces deux entreprises, alors français toujours entre guillemets, mais qui sont effectivement dans un giron d'influence de la France, avec des parts de marché très importantes sur le domestique français. Beaucoup de vos auditeurs, ils n'ont qu'à regarder si la gestion de l'eau n'est pas effectuée directement par leur municipalité. Ils sont quasiment certains que c'est Suez ou Veolia qui gère leur eau. Donc là, c'est une volonté de géant et qui est un petit peu... Personnellement, je vois comme une forme de répétition à chaque crise. En France, on imagine, au niveau aussi des sphères politiques, que c'est bien de construire un géant. Et typiquement, ça me rappelle en 2009, qu'est-ce qui avait été décidé en 2009? On avait déjà Veolia. Veolia Transport qui avait fusionné avec Transdev. En fait, la fusion s'est faite en 2011, mais ça avait été lancé en 2009. Donc Transdev, donc des réseaux de transport urbain dans de nombreuses villes françaises. Également, Veolia est présent à l'étranger. Et là, il était annoncé, on va faire, alors ça s'appelle des MOLT, en français, des opérateurs internationaux de transport locaux, de faire le champion mondial des MOLTS. Le résultat de tout cela, il y a eu effectivement fusion, et à partir très très vite, ça a été un échec industriel majeur. Veolia s'est retiré de Transdev en 2018 et en vendant ses parts à qui ? À une entreprise allemande. Alors pourquoi ça a été un échec ? Parce qu'on a voulu de force former deux entreprises. Il a fallu céder de toute manière certains réseaux pour des raisons de vie minimale de la concurrence. Et moi, pour avoir travaillé sur les aspects RH de cette fusion, eh bien, elle s'est fait tout d'abord en faveur des salariés, puisqu'on a harmonisé vers le haut les rémunérations. Donc là, on s'est rendu compte, ah ben ça coûte plus cher, et donc on a serré la vis sur l'ensemble des salariés en mettant une pression extrêmement forte, et tout ça s'est traduit par exemple une explosion de l'absentéisme dans cette entreprise. Donc c'est vraiment une preuve d'un échec industriel.
Ce que vous soulignez,
de noter que derrière les aspects strictement capitalistiques, il y a les aspects organisationnels. Comment on fait une fusion, comment on peut la réussir? Or il se trouve que il y a des échecs passés.
Il y en a beaucoup, énormément d'échecs, une fusion-acquisition sur deux, Emmanuel Combes.
Oui, même plus. Alors, ça dépend des études, ça dépend comment vous mesurez le taux d'échec. Mais vous savez, il y a la fameuse formule qu'on entend souvent chez les managers, 1 plus 1 égale 3. Et en réalité, ça fait souvent 1 plus 1 égale 1,5. Ça veut dire qu'en réalité, la fusion détruit de la valeur au lieu d'en créer. pour plusieurs raisons. Alors, je ne vais pas être exhaustif, mais il y en a une qui est assez intéressante, qui relève presque de la psychologie, c'est le biais de surconfiance. C'est-à-dire, le manager est persuadé qu'il va, en rachetant l'entreprise, faire mieux que ses prédécesseurs. Et en réalité, une fusion elle-même entraîne des coûts d'organisation. Je voudrais juste rebondir sur la notion de champion. C'est vrai qu'en France, il y a un inconscient champion égal de grande taille. Mmh. Je trouve que c'est intéressant parce que je ne dis pas que le fait d'être de grande taille ne fait pas qu'on est un champion, mais on peut être un champion sans être de grande taille. Regardez les nombreuses entreprises allemandes, les nombreuses entreprises italiennes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et le risque de la grande taille, si vous voulez, c'est ce que Thomas Philippon avait appelé le syndrome du PSG, à savoir, on est champion sur son marché domestique, mais à l'exportation, on n'est pas forcément meilleur parce que la grande taille, en tant que telle, n'est pas un argument économique. La grande taille ne se justifie que si vous avez des économies d'échelle. Alors les économies d'échelle, elles ne sont pas infinies. Donc attention à cette vision française qui consiste à assimiler champion à très grande entreprise. C'est pas une relation nécessaire.
L'idée d'avoir des champions, c'est aussi peut-être d'avoir suffisamment d'investissement dans l'innovation pour faire face à la concurrence des Américains, des Chinois, Sylvie Matelli.
Tout à fait. C'est les arguments qui sont défendus aujourd'hui par toutes ces entreprises dans leur stratégie d'intégration, en fait, et pour grandir. On reproche souvent aux entreprises européennes, voire françaises, de ne pas être assez grosses face à une concurrence chinoise qui se présente avec des entreprises gigantesques. Et puis, le deuxième argument, c'est de dire, au fond, on a besoin d'investir aujourd'hui dans un monde qui est en pleine mutation technologique, et donc pour investir, il nous faut plus d'argent, plus de capitaux, donc il faut être plus gros. Mais je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est peut-être une analyse qui est en partie erronée, parce que les économies d'échelle, elles peuvent être internes et externes, et il ne faut pas oublier qu'on peut aussi gagner, non pas par des fusions-acquisitions qui se révèlent la plupart du temps, puisque c'est plus de la moitié des fusions-acquisitions qui sont en réalité des échecs, qui se révèlent difficiles, voire des échecs. On peut aussi réfléchir à tout ce qui s'appelle économie d'échelle externe, c'est-à-dire au fond tout l'environnement de l'entreprise qui va lui permettre d'innover, de réaliser plus de valeur.
Mais s'il y a tant d'échecs, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'opérations de fusion-acquisition? C'est parce qu'il y a un espoir, Emmanuel Combe, de ces entreprises de faire monter les prix?
Alors l'idée, une fusion-acquisition a deux effets sur le marché. Premier effet, elle va baisser les coûts de production. Alors c'est vrai que ça peut être étonnant, voire choquant de dire ça, mais économiquement c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est des gains d'efficacité. Et quand vous baissez un coût de production, normalement vous baissez vos prix. Mais une fusion peut avoir un autre motif, et bien entendu on vous en parle sinon jamais, en tout cas moins, c'est que vous réduisez le nombre d'acteurs sur le marché et potentiellement vous pouvez faire monter les prix. Et je rebondis sur ce qui vient d'être dit. En économie, on a pu montrer à plusieurs occasions que des fusions, donc la constitution de, entre guillemets, monopole, étaient plutôt mauvaises pour l'innovation. Attention aussi à cette idée que parce que je suis seul, certes j'ai les moyens d'innover, mais ai-je l'incitation à innover? On retrouve tous les travaux, notamment de Philippe Aguillon, qui vous montrent que quand un marché est trop concentré, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'innovation. Donc là aussi, attention à l'inconscient, je suis gros, donc j'ai beaucoup de moyens pour faire de la recherche, mais ai-je l'incitation quand je me retrouve en monopole? Et on a vu la Commission européenne, sinon bloquer des fusions, en tout cas demander à des géants dans la pharmacie de revendre des pans entiers de recherche-développement au motif qu'ils allaient se retrouver tout simplement tout seuls sur un vaccin. Quand vous êtes seul sur un vaccin, quelle est votre incitation à chercher? Parce que vous vous faites concurrence à vous-même.
Ne donnons pas le spectacle au reste du monde de deux très belles entreprises industrielles françaises qui s'affrontent. Je pense que ce conflit est inutile. Et il faut que nous trouvions une voie qui permette aux deux parties de trouver leur intérêt dans cette opération. J'ai reçu M. Frérot il y a quelques jours. Je recevrai les dirigeants de Suez prochainement. Je rappellerai les conditions que nous avons fixées. Pour le coup, c'est des conditions, Caroline.
En termes de maintien d'emploi.
Le respect de l'emploi, l'actionnaire majoritaire qui doit être français et la bonne valorisation pour l'État de cette opération. Ces trois conditions, elles ne sont pas négociables. Mais j'appelle chacun au calme, au sang-froid, que chacun puisse voir l'intérêt de cette opération pour les deux parties. Et le rôle de l'État, c'est justement de veiller à ce qu'il n'y ait pas de guerre inutile dans le capitalisme français, mais la capacité à dégager de la valeur et des emplois pour nous tous.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ce matin, chez nos confrères de France 2. Une fusion, acquisition, sans plan social, ça existe, Philippe Askenazy?
Ah oui, ça peut exister, mais à ce moment-là, justement, lorsqu'on discute de la problématique des gains d'échelle, ce qui est souvent vendu lors des fusions-acquisitions, c'est que tous les doublons vont pouvoir disparaître. Donc, il y a une forme, en quelque sorte, de contradiction de dire on ne touche pas l'emploi et en même temps de prétendre que on va être gagnant à la fusion d'un point de vue strictement capitalistique. Alors, voyez, il y a ce départ derrière cette terminologie, on va préserver l'emploi en France. Et sous-entendu, on en détruirait à l'étranger. Mais on voit pas vraiment où est la logique, même économique, qu'il y a par derrière. Et donc, on a très certainement là une sorte de, je pense, de voile qui dont fait face les décideurs publics français. Parce que vous voyez bien, c'est finalement l'État qui est à la manœuvre. Alors, ce voile est ancien. Hein, c'est très ancien du fait de l'existence de ce grand corps d'État. On a toujours tendance à vouloir voir toujours toujours plus grand. Et puis je crois qu'il y a plus, peut-être plus fondamentalement aujourd'hui, l'idée que justement, qui est pourtant que les travaux de nombreux économistes remettent en cause, que ces géants égale innovation. Et ce voile-là, c'est parce que les GAFA donnent l'impression qu'on est dans un monde d'innovation absolument extraordinaire, alors qu'on n'a pas en fait le contrefactuel, qui serait une situation où ces GAFA seraient démantelés, il y aurait nettement plus de concurrence, peut-être qu'on verrait largement plus d'innovation dans le domaine du numérique comme dans le domaine de l'environnement. Donc voilà, je crois que vraiment on efface une forme d'État masqué, voilà, enfin masqué mais pas sur la bouche, il devrait plutôt se taire, je pense, et masqué sur les yeux, et qui a une vision certainement erronée de ce que devrait être la politique industrielle française aujourd'hui.
Emmanuel Combes.
Juste un mot sur les GAFA, je rebondis, on peut pas exclure aussi qu'il y ait des stratégies de la part des grands opérateurs consistant à faire des fusions dans le but de tuer des petits concurrents prometteurs qui pourraient demain leur faire de l'ombre. C'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle dans la littérature économique les killer acquisitions, et ça a été montré, alors pas sur le numérique, ça a été montré dans le domaine de la pharmacie, une étude très intéressante de 2018 de Cunningham qui s'aperçoit que 5% des fusions acquisitions dans le domaine de la pharma au sens large, hein, sont motivées par le fait de stopper en réalité un projet de recherche qui était concurrent de celui que l'entreprise était en train de développer. Donc on peut même pas exclure qu'une fusion-acquisition soit forcément... Elle est créatrice de valeur au sens où elle empêche un concurrent d'arriver sur le marché.
Et ça interroge effectivement le rôle de l'État afin que ces fusions-acquisitions profitent en réalité aux deux protagonistes. Ce qu'on voit dans l'affaire de Veolia-Suez, c'est que pour les dirigeants de Suez, l'offre de rachat de Veolia semble être vécue comme une opération de prédation, Sylvie Matelli.
Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, dans des acquisitions, et surtout quand ce sont des acquisitions qui ne sont pas concertées entre les deux entreprises. Et effectivement, le rôle de l'État interroge sur le sujet, parce qu'a priori, c'est d'abord une opération industrielle, et on voit mal, même si les deux entreprises sont françaises, pourquoi l'État s'en mêle, et sur d'autres sujets, en fait, l'État devrait intervenir plus largement, effectivement.
On l'a dit, la période semble en quelque sorte propice aux alliances. Est-ce que c'est lié effectivement à ce lendemain de confinement, Philippe Askenazy, et plus largement, quels sont les secteurs peut-être qui font le plus l'objet aujourd'hui de restructuration? C'est peut-être la pharmacie et aussi l'automobile?
Oui, alors certainement il y a dans les crises récentes une mécanique de concentration qui s'opère. Alors pour plusieurs types de facteurs. Alors le premier, c'est que de fait, il y a des entreprises qui se retrouvent fragilisées et donc des proies potentielles. Alors c'est pas du tout le cas dans l'affaire Suez Veolia. Donc des proies potentielles, et donc évidemment ça aiguise des appétits pour des rachats, surtout si ce sont des prix qui sont plus faibles que la période d'avant crise. Donc ça c'est un premier facteur. Le second, c'est et là peut-être c'est quelque chose qui aujourd'hui rentre en jeu, qui peut-être expliquer le fait qu'on veuille devenir de plus en plus gros et énorme, c'est que on est dans un monde qui, du fait de la crise que l'on connaît aujourd'hui, va être encore plus durablement dans une situation de taux bas, et encore plus durablement dans une situation où il va y avoir une demande pour des actifs sûrs. Or, il y a une forme de pénurie d'actifs sûrs, alors en partie pour des raisons de démographiques dans nos économies. Et donc aujourd'hui, les plus grandes entreprises, d'autant plus qu'elles sont donc plus la concentration est importante, plus ces entreprises-là arrivent à se financer, notamment sur les marchés obligataires, à des taux extrêmement bas.
Et cela explique les rachats dans la santé, la tech, notamment.
Alors, certaines de ces entreprises arrivent à placer des obligations à des taux inférieurs à ceux de certains États européens, européens comme l'Italie ou comme l'Espagne. Et donc, il y a un effet à ce moment-là boule de neige, c'est-à-dire vous êtes géant, vous obtenez facilement des financements, ce qui vous assure encore plus d'être géant. Et à partir d'un moment, vous êtes tellement gros que, il y a une problématique même vis-à-vis de tous les épargnants qui ont vos actifs. Est-ce que c'est intéressant de remettre en cause ces géants avec le risque finalement que des épargnants français ou des grands pays avancés perdent à une remise en cause de ces monopoles. Donc, vous voyez, on est plutôt dans une dynamique globale où le gigantisme trouve un intérêt, mais pas dans nécessairement un intérêt productif, un intérêt du consommateur encore moins, mais un intérêt purement capitaliste.
Emmanuel Combes.
Oui, pour remettre en perspective, il faut voir que le marché européen, les marchés européens, les travaux notamment de Philippon, mais d'autres auteurs aussi, montrent très clairement que les marchés européens sont en moyenne moins concentrés que les marchés américains qui, vous le savez, ont connu une concentration très forte au cours des 30 dernières années, même si on peut discuter des causes de cette concentration industrielle, ce qui veut dire qu'en effet, il y a une marge de, entre guillemets, de très forte progression en Europe, en particulier dans les secteurs, comme le disait Philippe, qui ont été très touchés par la crise. Je pense au secteur du transport aérien, où il y aura forcément une vague de faillite d'ici peu. Hein, la situation est tellement dramatique. Alors, il y a peut-être une différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'en Europe, pour qu'il y ait concentration, il faut quand même passer sous les fourches codine des autorités antitrust. Et on le sait, la Commission européenne, jusqu'à preuve du contraire, elle est en train de réformer son contrôle des concentrations, a été relativement, je dirais, entre guillemets, sévère comparativement aux autorités antitrust américaines.
C'est ce qui explique cette concentration moins forte, c'est un droit de la concurrence plus strict en Europe qu'aux États-Unis.
C'est clair, en tout cas, c'est ce que dénoncent les détracteurs du droit de la concurrence. Moi, je pense, à titre personnel, qu'il est nécessaire d'avoir ce contrôle. Mais en effet, quand on regarde les faits, hein, quelle que soit l'interprétation qu'on donne aux faits, les ratios de concentration, le degré de concentration des marchés est largement inférieur, notamment pour des raisons antitrust, parce qu'on a empêché l'apparition de, entre guillemets, monopoles en Europe.
Mais la tendance aujourd'hui en Europe, elle est à plus de concentration.
De toute façon, avec la crise, vous allez avoir nécessairement des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Toute la question va être de savoir, est-ce que les autorités antitrust vont autoriser ce qu'on appelle des failing firms, c'est-à-dire, je rachète une entreprise qui est en faillite, il faut arriver à démontrer que, si je ne la rachète pas, de toute façon elle disparaît. Si elle disparaît, le marché sera plus concentré. Donc même l'antitrust aura son mot à dire sur cette question-là.
Il y aura notamment de fortes restructurations dans le secteur de l'automobile qui a été très affecté par la crise et puis qui, dans le contexte de la transition écologique, est confronté à la nécessité de se transformer, hein, Sylvie Mathé.
Tout à fait. Et justement, vous avez plusieurs phénomènes qui se combinent. En fait, d'abord un effet crise qui fait qu'il y a des valeurs qui sont aujourd'hui extrêmement intéressantes et extrêmement attractives pour les investisseurs qui, par contre, anticipent qu'avec la reprise, ces entreprises vont se redresser ou en tout cas leur valeur va s'accroître. Donc vous avez ce premier phénomène. Vous avez un deuxième phénomène qui est plutôt un phénomène de déconcentration pour le coup. On l'observe en particulier dans l'industrie de défense britannique où vous avez des fonds d'investissement qui rachètent de grosses entreprises à des conditions relativement avantageuses parce qu'elles sont en difficulté, mais qui ont bien repéré qu'il y avait au sein de ces entreprises des branches ou des activités qui pouvaient rapporter gros et qui revendent à la découpe quelques années plus tard. Et ça, c'est quelque chose que l'on devrait observer aussi dans les années qui viennent. C'est-à-dire quand vous achetez une grosse entreprise en difficulté ou une entreprise de taille intermédiaire en difficulté, vous pouvez la payer à un prix très attractif, alors même que vous savez qu'à l'intérieur de cette entreprise, il y a énormément de choses qui peuvent rapporter. Donc on a tous ces phénomènes et puis le besoin d'argent aussi des entreprises, et en Europe en particulier, parce qu'il y a un certain nombre de mutations technologiques et un besoin d'investissement dans ces domaines, donc d'argent frais pour investir.
Et c'est intéressant de voir qu'il y a d'un côté des fusions acquisition dans les secteurs qui marchent bien. Je parlais de la santé, Sanofi qui s'est offert la biotech américaine Principia Biopharma, l'américain Johnson & Johnson qui a racheté le britannique Momenta Pharmaceuticals, et en même temps dans les secteurs qui vont le moins bien. On parlait du secteur aérien, on parle de l'automobile. Philippe Askenazy, qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, oui, alors c'est ce qu'il y a en plus dans le cas de l'automobile. Je pense que on est sur deux segments totalement différents. On parlait de failing firm. Il y a aussi par derrière la question de l'emploi, qui, je pense, va beaucoup jouer dans, finalement, le poids des décisions politiques. Ce que l'on voit derrière cela, c'est finalement, même si la concentration en Europe est peut-être moins importante qu'aux États-Unis, on est dans une économie qui est quand même très fortement granulaire aujourd'hui, et où des territoires entiers dépendent de quelques employeurs. Et je pense que ce facteur-là a un poids politique absolument considérable, même sur les autorités de concurrence et même à un niveau européen. C'est-à-dire que finalement, refuser une fusion et laisser tout un pan d'usines ou bien, par exemple, d'aéroports en faillite en Europe, plongeant des villes dans des situations de dépression, eh bien, c'est des situations qui vont être très difficiles à gérer d'un point de vue politique, voire d'une certaine manière éthique, et qui est un levier pour ceux qui souhaitent mener ces opérations de concurrence.
Emmanuel Combes.
C'est intéressant ce que dit Philippe, parce qu'en France, on a une spécificité. L'autorité de la concurrence peut interdire une fusion. Pour autant, le ministre peut, pour d'autres raisons que la concurrence, intitulées des raisons d'intérêt général, parmi lesquelles la compétitivité, l'emploi, outrepasser cette interdiction. Donc c'est intéressant, on voit bien qu'en France, on a quand même cette mise en balance. La concurrence n'est pas l'alpha et l'oméga de toute chose. Hein. L'autorité de concurrence met une analyse de concurrence, mais le ministre a ce pouvoir, dès qu'on appelle pouvoir d'évocation, il l'a utilisé dans l'affaire William Sorin il y a 2 ans.
Dans ce contexte, effectivement, où il y a une volonté de préserver l'emploi et de réindustrialiser peut-être les territoires, Sylvie Matelli, on peut s'attendre à ce que l'État, le gouvernement, soit plus attentif que jamais à ces projets de fusion?
On peut le penser. Alors, on a souligné au tout début de l'émission le travers français de ne favoriser que les grands groupes. C'est la difficulté aussi dans ce domaine. C'est que les capacités et la possibilité de contrôler aussi des fusions ou plutôt des acquisitions d'entreprises plus petites, mais qui restent des pépites technologiques et des entreprises qu'il serait souhaitable de conserver, et en tout cas qui permettent et qui participent de l'aménagement du territoire, et quelque chose qui est beaucoup plus compliqué en France que dans d'autres pays, comme en Allemagne en particulier, où l'aménagement du territoire et la politique industrielle est beaucoup plus régionale que nationale.
C'est vrai qu'on a parlé depuis le début de cette émission beaucoup des fusions entre très grandes entreprises, mais il faut s'attendre aussi à des rapprochements entre des plus petites sociétés dans le contexte de la crise épidémique, Philippe Askenazy.
Oui, alors c'est possible. Ça va être intéressant de suivre ce qui va advenir dans le commerce en France, où on a par exemple des de manière très très développée des réseaux de franchise, et ces réseaux de franchise sont en fait découpés en ce qu'on appelle des super franchisés. Donc en fait c'est plutôt des groupes familiaux qui peuvent être propriétaires de 10, 20, 30, 50, 100, 200 magasins, mais on le sait pas. Ils peuvent appartenir parfois à plusieurs enseignes différentes, à plusieurs groupes de franchises différents. Et ces super franchisés ont un poids parfois économique et en termes d'emploi très important sur certaines zones d'emploi. Et il risque d'y avoir, là, du fait de la crise dans certains segments du commerce ou certains formats de commerce, on parle notamment dans l'alimentaire des formats d'hypermarché, là aussi, alors on ne parlera pas de fusion-acquisition, mais une recomposition du paysage qui peut aboutir à la disparition de certains super-franchisés au profit d'autres super-franchisés ou bien de chaînes intégrées, et qui fera que sur des marchés locaux, vous voyez, on avait une vision mondiale puis une vision nationale de ce que pouvait être la problématique de la concurrence. Il y a aussi les problématiques de marchés locaux et où interviennent de fait, je reviens à la question de l'emploi, en plus la problématique de monopsone, c'est-à-dire de situations où ce sont des tellement gros employeurs locaux qui peuvent eux-mêmes influer sur le prix du travail, sur les rémunérations de manière locale. Et peut-être que dans la situation actuelle où justement on a la problématique du chômage, ces problématiques de restructuration, au bout du bout, c'est un des plus gros risques en termes concurrentiels. C'est cette situation monopsonique que risque de gagner un certain nombre d'acteurs en France.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Emmanuel Combes, Sylvie Matelier, Philippe Askenazy sont toujours avec nous pour parler de ce capitalisme qui se transforme peut-être sous l'effet des alliances d'entreprises. Alors l'un des grands enjeux aujourd'hui, ce sont les IDE, les investissements directs à l'étranger, des investissements qui se font très souvent par le biais d'une fusion-acquisition. C'est aujourd'hui un enjeu de souveraineté majeure, Sylvie Matelier.
C'est clairement en train de devenir, alors en France ça l'est depuis un certain temps, mais c'est clairement en train de devenir un enjeu majeur partout en Europe. Et on a vu depuis le début du mois de mars et l'entrée en confinement d'un certain nombre d'économies, suite aussi à des discours de la présidente de la Commission européenne, à un rapport qui a été publié sur le sujet, on a vu les lignes bouger. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été engagées pour accroître le contrôle des investissements directs étrangers. Ça se passe dans un contexte où l'Union européenne va mettre en œuvre le 11 octobre 2020 son mécanisme de filtrage, qui est en réalité plus qu'un mécanisme de filtrage, un mécanisme d'échange d'informations entre Européens sur ces questions. Donc c'est un sujet qui monte effectivement, mais c'est un sujet qui se confronte dans la vraie vie et dans la réalité. C'est pas la première fois que le sujet monte, c'est un sujet qui se confronte à tout ce dont on a parlé au départ, c'est-à-dire les besoins de financement des entreprises. Et quand vous avez une opération d'acquisition ou un investissement étranger, c'est parce qu'une entreprise à un moment donné a besoin d'argent frais. Donc, que faites-vous pour compenser ça? Si vous contrôlez, que vous interdisez l'investissement, au fond, vous pénalisez l'entreprise. Alors là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de poindre également, c'est la montée en puissance de fonds publics d'investissement, un petit peu partout en Europe, pour compenser, si on ne souhaite pas un investissement étranger, pour compenser cet investissement et pouvoir intervenir dans l'entreprise.
Pour bien comprendre, aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises européennes fragilisées à cause de la crise, qui sont la cible des appétits étrangers, notamment dans le secteur de la santé et du tourisme, Emmanuel Combes.
Oui, mais attention à nouveau à pas passer d'un extrême à l'autre. On a souvent reproché à l'Europe d'être naïve et d'être ouverte aux quatre vents. Pour autant, se protéger, il faut d'abord se poser la question, se protéger contre qui et pourquoi faire? Je vais le dire de manière peut-être un petit peu caricaturale et vous m'en excuserez, mais le fait qu'une entreprise française soit possédée par un Indien, je vois pas en quoi ça pose problème. Ça serait supposer qu'un Indien gère moins bien une entreprise qu'un actionnaire français. Donc la vraie question n'est pas de savoir quelle est l'origine géographique de l'actionnaire, c'est quelles sont ses intentions. Et en particulier, y a-t-il derrière cet actionnaire, par exemple, un État étranger? Là, on peut entendre cette idée qu'il faille se protéger. Mais si vous prenez l'exemple du Club Méditerranée, on ne le sait peut-être pas, c'est en réalité une entreprise chinoise, hein, puisqu'elle a été rachetée à 100% par Fosun. Que je sache, ça n'a pas causé de problème, parce que l'investisseur chinois, je suppose, est extrêmement intelligent. Comme tout actionnaire, il sait quels sont les bons choix. Donc attention à ne pas arriver à une forme extrême, je dirais, de souverainisme, qui consisterait à dire, par principe, le fait qu'un étranger, entre guillemets, vienne racheter mes entreprises est une mauvaise chose. On l'a quand même appris à nos dépens, je vous rappelle, la célèbre affaire Dailymotion, qui devait être achetée par Yahoo. À l'époque, Dailymotion avait à peu près la taille de YouTube. Et vous le savez, un ministre célèbre français a dit, mais jamais Dailymotion, qui appartenait à Orange, ne devrait être acheté par un Américain. Bon, on connaît le destin, malheureusement, de Dailymotion, qui aujourd'hui fait pâle figure par rapport à YouTube.
Donc, et en même temps, quand les États-Unis cherchent à racheter le laboratoire pharmaceutique allemand CureVac pour garder le vaccin, ça pose d'autres problèmes.
Alors, je suis d'accord avec vous. Pour moi, il y a deux sujets. Est-ce qu'il y a derrière un État qui agit? Et secondement, est-ce que c'est sur un bien, entre guillemets, essentiel? Enfin, des biens essentiels, on peut en dresser la liste. Je suis pas sûr que la liste soit si exhaustive que cela. Une fois qu'on a parlé des vaccins, du domaine militaire, on a quand même brossé un périmètre déjà assez large. Le problème de la France, c'est que tout devient stratégique. Je me souviens de Monsieur de Villepin qui nous expliquait en 2005 que les yaourts Danone ne pouvaient pas être achetés par Pepsi car c'était porter atteinte à la souveraineté française. J'ai absolument rien contre les yaourts Danone, mais vous voyez, il faut avoir une conception raisonnable de ce qu'est un bien stratégique.
Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Askenazy?
Oui, et puis je pense qu'il faut séparer la question souveraineté de cette question de nationalité de l'entreprise ou d'investissement. Les entreprises françaises, pourquoi on a aujourd'hui des difficultés d'approvisionnement en médicaments? C'est pas parce que les entreprises ne sont plus devenues françaises, c'est tout simplement parce que on a délocalisé, on a utilisé d'autres chaînes mondiales pour se fournir. C'est pas la nationalité de l'entreprise qui a déterminé la souveraineté. Donc si on veut faire une vraie politique de souveraineté, à ce moment-là, pourquoi pourquoi ne pas refaire intervenir, disons, l'État directement comme acteur productif, comme actionnaire de référence d'entreprise, etc., plutôt que de regarder la nationalité de l'investisseur.
Mais dans quel cas, selon vous, c'est dangereux de laisser une entreprise investir trop dans une entreprise européenne? Est-ce qu'il y a des cas où la menace est réelle, comme le disait Emmanuel Combes, dans des secteurs stratégiques très spécifiques, ou est-ce que c'est plus large que cela?
Écoutez, il y a à nouveau, c'est quelle est l'intention de l'investisseur. Si l'intention de l'investisseur est justement de casser une potentialité d'innovation en Europe, de casser un concurrent, là il y a une légitimité à une action des États pour aller à l'encontre de cette logique. Paradoxalement, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à détecter. Ensuite, si on regarde les secteurs où il y a souveraineté, c'est pas totalement à l'économiste de répondre à la question, hein. C'est une question politique, même une question de la société. On doit définir ce qu'on attend par souveraineté française, par souveraineté européenne. Je pense que c'est un point aussi important. Il y a beaucoup de politiques en France qui disent qu'il faut une souveraineté de la France uniquement, et si on est racheté par un Allemand, un Danois, c'est en soi déjà une perte de souveraineté. Tout cela est aussi hors du domaine strict de l'économie et dépend de quel est pour nous l'espace pertinent de souveraineté.
C'est au domaine du politique de définir ces secteurs sensibles pour vous aussi, Sylvie Matelli.
Oui, très clairement, c'est plus une question politique, économique, effectivement. Et c'est vrai qu'en Europe, cette redéfinition de la souveraineté, alors qui va très très loin, hein, on l'a dit au départ, et peut-être beaucoup trop loin, parce que, pour moi, elle va beaucoup trop loin parce que les objectifs n'en sont pas prédéfinis. Et au fond, il faut partir de ce qui était dit à l'instant, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut être souverain. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'Europe et les pays européens, chacun séparément, se confrontent à un contexte géopolitique entre les États-Unis et la Chine, où la souveraineté signifie essayer de préserver notre libre arbitre. Alors on sait pertinemment que dans ce contexte-là, on ne pourra pas tout préserver sur notre territoire et on n'y a absolument pas intérêt parce que c'est un prix payé par le consommateur qui sera beaucoup plus cher, ça a des conséquences et des enjeux qui vont beaucoup plus loin que le seul maintien des activités sur le territoire national. Mais on sait aussi qu'il y a peut-être eu une certaine naïveté par le passé à ne pas se poser ce type de question de la souveraineté ailleurs en Europe qu'en France, et ça conduit à un certain nombre de pertes de compétences et de risques. La montée en puissance de ce concept de souveraineté en Europe, il faut rappeler qu'il vient de l'essor des investissements chinois en Europe sur des technologies, en particulier les technologies dans le domaine de l'énergie, des énergies renouvelables, etc., qui nous auraient privés potentiellement de parts de marché et de technologies.
Je rappelle qu'entre 2010 et 2019, Pékin aurait investi 150 milliards d'euros en Europe. Emmanuel Combes.
Mais je rebondis sur ce que disait Sylvie, en effet, dès lors qu'on entend par souveraineté la défense de biens essentiels définis par le politique, mais on voit quand même qu'a priori la défense nationale serait à l'intérieur, ça me pose aucun problème. Et d'ailleurs, je trouve que les premiers textes français, 1966, étaient très clairs quand vous lisez le Code monétaire et financier, article L151-3, tout investissement qui pourrait porter atteinte à la sécurité nationale. Je trouve que ça a le mérite d'être clair, plutôt que de dresser une liste des produits, des secteurs qui devraient être souverains ou pas. Un point aussi également important, la souveraineté, elle a un coût économique. Et je trouve qu'il faut avoir en effet ce débat démocratique. Mm. C'est bien beau de vouloir relocaliser tout en France. Il faut avoir le courage de dire que si on veut avoir du Doliprane en permanence, si j'ose dire, il faudra peut-être en accepter le surcoût et donc le surprix. Et je suis pas sûr d'ailleurs que le fait de produire chez soi soit une preuve d'indépendance. Imaginez, espérons que ça n'arrive jamais, qu'un jour un choc s'abat sur la France, tout faire dans son pays, c'est plutôt un mauvais calcul. Il aurait mieux valu diversifier ses approvisionnements.
Un mot peut-être, Sylvie Matelli, sur les moyens de se protéger, entre guillemets, face à ces investissements étrangers qui viseraient des secteurs stratégiques. Il y a par exemple le fait d'abaisser un seuil de détention de part de l'entreprise et de l'abaisser à partir duquel ce dossier de reprise sera soumis à autorisation de l'État. Là, on voit par exemple que la France a baissé ce seuil de 33% à 25%, mais l'Allemagne, elle était déjà passée à 10%.
Tout à fait. Ce qu'il faut bien voir pour comprendre la montée en puissance de ce concept de souveraineté, c'est l'évolution des contrôles, des législations de contrôle des investissements directs étrangers. Et c'est vrai que si vous regardez, au tout début des années 2000, il y avait deux pays qui contrôlaient leurs investissements directs étrangers, plus la France avec son code monétaire monétaire et financier, c'était la Hongrie et la Lituanie. Donc des pays secondaires, on va dire, en Europe, mais pas les grands pays. En 2000, entre 2003 et 2006, vous avez l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France qui renforce son contrôle, qui arrive sur ce champ. Et depuis 2015, vous avez 14 pays, vous avez une montée en puissance et avec des critères qui se multiplient et qui se renforcent. Et au début des années 2000, on contrôlait une entreprise qui rachetait plus de 50% en fait de la valeur d'une autre entreprise. Aujourd'hui, on arrive, et pas qu'en Allemagne, on arrive en Allemagne et en Espagne, et me semble-t-il, l'Italie est sur cette voie également, ainsi que d'autres pays européens. On arrive à contrôler des investisseurs quand ils investissent pour moins de 10% ou à peine 10% en fait dans une entreprise.
Et un autre levier, c'est le droit de la concurrence, afin que les entreprises étrangères ayant bénéficié de subventions ne puissent pas acquérir des parts trop importantes dans des entreprises européennes.
Alors pour l'instant, c'est pas pris en compte dans l'analyse, et donc la Commission européenne, à la suite de l'interdiction de Siemens, Alstom a décidé de revoir en quelque sorte son logiciel, hein. Et parmi les sujets en débat, il y a la possibilité de prendre en compte le fait, pour ne pas la nommer, qu'une entreprise, par exemple, chinoise, bénéficie de subventions publiques. Or, voyez bien que si le concurrent chinois bénéficie de subventions, ça veut dire que c'est plus facile pour lui de rentrer sur le marché européen. Donc, il faudra en tenir compte quand on analyse la concurrence sur le marché. Je voudrais juste revenir, si vous m'autorisez un instant, sur la notion de souveraineté. Je trouve que c'est une notion qui est quand même très piégeuse, parce que ça n'est pas une notion économique, ce qui n'enlève rien à sa légitimité, hein. C'est une notion politique. Et on voit bien qu'en politique, la souveraineté, c'est vraiment l'idée que je décide indépendamment des autres. Or, en économie, l'indépendance, ça n'existe pas. Ou alors, ça s'appelle l'autarcie, ce qui est une pure folie. Donc, en réalité, la souveraineté, ça ne peut être que sur, si j'ose dire, des petits morceaux, des produits jugés essentiels, ça ne peut être que quelque chose de résiduel. Mais la souveraineté entendue comme je veux m'extraire du monde, ça n'est tout simplement pas possible.
En fait, l'interdépendance économique, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être détricoté?
Détricoté, ça revient à dire importer moins. La théorie économique montre qu'en général, les importations, c'est quand même plus favorable à la croissance économique d'un pays sous certaines conditions. Je crois qu'au fond, la souveraineté, c'est la dépendance choisie, et notamment c'est savoir se rendre indispensable. En réalité, qu'est-ce que c'est être souverain? C'est être un maillon de la chaîne, mais savoir que dans le maillon de la chaîne, on a autant besoin des autres que les autres ont besoin de vous. Et si j'ai 30 secondes, laissez-moi prendre un petit exemple, c'est celui des semi-conducteurs. L'Europe est complètement larguée dans les semi-conducteurs, sauf sur les machines de fabrication des semi-conducteurs. Il y a un Européen, ASML pour ne pas le nommer, qui fabrique, je crois, 70% des machines dans le monde. On pourrait dire qu'en réalité, on est souverain, alors qu'on n'a pas une seule usine de semi-conducteurs en Europe, car les producteurs taïwanais et les autres producteurs ont besoin de nos machines pour produire. Donc attention, la souveraineté, ça peut être tout simplement être très bon, exceller dans un domaine. Ça s'appelle en réalité se spécialiser et être le meilleur dans un domaine d'activité.
Pour conclure, on arrive au terme de cette émission. Peut-être un dernier mot sur ce capitalisme plus concentré. Est-ce qu'il faut s'attendre à un durcissement de notre économie de marché? C'est ce que prévoit Patrick Artus, par exemple. Durcissement qui serait lié justement à cette concentration toujours plus forte du capital entre les mains de quelques acteurs. Philippe Askenazy.
Oui, alors c'est une possibilité, oui, et en plus il y a par derrière une forme de tendance autoritaire que l'on trouve au sein de nos grandes démocraties. Or, un capitalisme mêlé à un autoritarisme politique, c'est toujours risque souvent de se tourner vers le monde contre le monde du travail. Et là, ça, c'est, je pense, un risque majeur qui, pour nos démocraties au bout du bout. Donc, vous voyez, un capitalisme peut-être plus dur et des démocraties ébranlées.
Sylvie Matelli, d'un mot.
Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, et on a des précédents historiques qui plus est, donc c'est pas nouveau. Et c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à, on le voit au travers des mouvements sociaux aussi qui ont émaillé un certain nombre d'endroits de la planète juste avant l'arrivée de cette pandémie. On voit que les tensions sont extrêmement fortes et que les risques qui pèsent sur nos démocraties sont importants et de plus en plus importants.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion passionnante. Emmanuel Combes, professeur d'économie à Paris 1, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, Philippe Askenazy, chercheur au CNRS. Les références de vos ouvrages sont à retrouver sur le site de l'émission. Un grand merci d'être venu dans nos studios. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver la bibliothèque de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
En cette rentrée, les éditions textuelles publient 3 entretiens avec Bernard Friot sous le titre « Un désir de communisme », un bref ouvrage de synthèse de la pensée de l'économiste et sociologue, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre et spécialiste de la protection sociale. Au micro de Marguerite Caton, il revient sur la nécessité d'émanciper en premier lieu le travail.
Ce que l'on entend par travail dans le capitalisme, le travail étant la partie de l'activité qui a une validation sociale comme productive, Ce qu'on appellera dans le capitalisme, c'est toute activité qui met en valeur du capital. Et donc, du coup, les fonctionnaires ne travaillent pas, les chômeurs ne travaillent pas, la seconde journée des femmes n'est pas du travail, les retraités ne travaillent pas. Bref, on est travailleurs par intermittence dans le capitalisme. C'est une question anthropologique aussi, cela. Hein. On est travailleurs par intermittence, c'est-à-dire selon notre performance sur des marchés que nous ne maîtrisons pas, le marché du travail ou le marché des biens-services si on est indépendant. Et tout l'enjeu précisément de 46, par exemple en disant les retraités ont droit au salaire, c'est de nous faire des travailleurs en permanence, avec une confirmation en permanence que nous sommes des travailleurs par un droit au salaire, y compris chez les retraités. Croizat, il proclame le droit au salaire pour les retraités.
Vous le dites, un instrument existe déjà pour cette émancipation de l'emploi. Ça a été construit en 1946, Ambroise Croizat. Alors, racontez-nous un peu cette histoire, ce personnage, et expliquez-nous l'importance cruciale de cette année 46 et de cette institution régime général de la sécurité sociale. Et puis, on viendra ensuite sur le statut des fonctionnaires.
Eh bien, Ambroise Croizat, c'est donc le secrétaire général de la fédération CGT de la métallurgie. Il a participé aux accords Matignon en 1936. C'est lui qui est à l'origine des acquis sur la convention collective, qui va se traduire par la loi de 1937, qui étend les conventions collectives. Une loi, précisément, qui, parce qu'elle institue l'obligation du respect du salaire à la qualification du poste, est tellement refusée par le patronat que dès 1938, elle est supprimée. Et puis, deuxième champ d'activité de Croizat, donc, lorsqu'il devient ministre du Travail après la victoire des communistes aux élections législatives de 45, à partir de ce moment-là, pendant un an, puisqu'il dispose en gros d'un an, il va mettre les bouchées doubles, mais pas lui seul, hein, des milliers de militants communistes de la CGT vont alors effectivement subvertir toute cette sécurité sociale existante, pas en totalité, parce qu'il y aura des résistances qui font qu'il y aura des régimes spéciaux qui seront maintenus, mais le fait de généraliser le dispositif, de le faire gérer par les travailleurs, d'adopter une cotisation interprofessionnelle, non pas des cotisations de branche, d'entreprise, etc., une cotisation interprofessionnelle unique, tout cela va être la matrice d'une mise en sécurité sociale de la production de soins, et sur ce modèle, nous pourrions d'ailleurs mettre en sécurité sociale bien d'autres choses.
Oui, donc ça permet de bien comprendre que la pension de retraite que l'on perçoit n'est pas une épargne différée qui aurait été retenue d'un salaire et puis versée au moment où on cesserait de travailler ou d'être utile ou productif, mais que c'est un salaire à vie.
Alors, c'est précisément donc tout l'enjeu. Croizat va, pour l'essentiel, effectivement, dissocier le salaire de l'emploi. Il le dissocie pour les allocations familiales, qui sont la prestation sociale majoritaire à l'époque. La majorité du régime général de la sécurité sociale, ce sont les allocations familiales qui deviennent du salaire hors emploi. Il n'y a pas besoin d'avoir un emploi. Il faut être parent de deux enfants.
Et pour les femmes, c'est un mouvement révolutionnaire.
C'est-à-dire que ça reconnaît une contribution à la production de valeur pour des parents à hauteur de 225 heures par mois de l'ouvrier de la métallurgie. C'est-à-dire que cette reconnaissance est supérieure, parce que les ouvriers de la métallurgie ne faisaient pas 225 heures par mois, ils en faisaient plus qu'aujourd'hui, mais pas à ce point. Donc effectivement, la loi d'août 46 finalement fait des parents des travailleurs ayant droit à du salaire. Donc elle sort la définition du travail, sa définition capitaliste, dans son objet et dans sa forme, puisqu'il n'y a pas besoin d'être subordonné à un employeur pour être reconnu comme travailleur. Et puis, effectivement, l'autre grande action de Croizat, ça va être d'étendre au régime général le dispositif de la fonction publique en matière de retraite. C'est-à-dire que la pension, comme vous venez de dire, n'est pas du tout le différé des cotisations passées. Le retraité n'est pas un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations, c'est un travailleur qui a droit à l'actualité de son salaire. Et c'est pour cela, parce qu'il y a cette dissociation entre salaire et emploi, parce que progressivement le salaire devient un attribut de la personne, c'est des prémices, tout ça n'est pas encore suffisant bien sûr, hein, que le patronat, qui, comme toute classe dirigeante, comprend parfaitement où sont ses intérêts, où sont ses adversaires, va dès 47 créer l'AGIRC, puis l'ARCO en 61, qui pose au contraire les retraités comme d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur salaire.
Aujourd'hui, les retraités, comme longtemps les femmes, sont jugés utiles mais non productifs. De quelle vie rêvez-vous, Bernard Friot, pour les plus âgés d'entre nous ?
Eh bien, de la vie dont je rêve pour moi, puisque je suis en retraite depuis 10 ans, et qu'il m'est absolument insupportable d'être confiné dans le bénévolat. Je récuse totalement ce statut social qui, encore une fois, est celui des femmes dans la seconde journée, qui est celui des jeunes, qui sont pas encore...
En insertion.
Le scandale de l'insertion est tout à fait symétrique du scandale de la retraite vu d'un point de vue capitaliste comme du non-travail. On est après le travail. C'est pour ça qu'on n'a pas droit au salaire. Et donc, ce confinement dans le bénévolat est totalement, pour moi, une amputation. Je suis pour, alors soyons clairs, poser la personne de 18 ans à sa mort comme travailleuse, ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle fait c'est du travail. Je suis farouchement favorable à ce que des tas de nos activités et de plus en plus de nos activités échappent à la valeur économique. Deux, ça ne veut pas dire qu'il y a injonction au travail. Ça veut dire qu'on sort les travailleurs du statut anthropologique dans lequel ils sont dans le capitalisme, travailleurs par intermittence, devant aller quémander sur un marché sur lequel ils n'ont aucune prise, du travail ou des biens et services, leur reconnaissance comme travailleurs. On les pose en tant que personne, comme en capacité de produire de la valeur et en responsabilité de le faire. Le mouvement féministe repose là-dessus. On en a marre d'être utile, on voudrait bien aussi être dans le statut commun de producteurs. Et les retraités en ont marre d'être utiles, ils voudraient bien aussi être dans le statut commun de producteur. Ça ne veut pas dire, encore une fois, en permanence producteur ou avec une injonction de production, mais pas exclu de la production. Moi, quand j'écris un bouquin, quand je mène des recherches, j'entends bien être en responsabilité économique, j'entends bien ne pas être marginalisé par rapport à la production de la valeur.
Venons-en au second coin enfoncé dans le système capitaliste, c'est le statut de la fonction publique, on est toujours en 46. Expliquez-nous pourquoi c'est si important.
Bien parce que le statut de la fonction publique va plus loin que ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais des conventions collectives et du salaire à la qualification du poste. La convention collective, elle qualifie des postes et à chaque niveau de qualification correspond à un niveau de salaire. Mais c'est une victoire déjà de faire de la rémunération, non pas le prix de la force de travail, c'est-à-dire la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche, mais la qualification d'un poste de travail qui n'est pas la photographie de mon activité. Et on a vu combien c'est très important que ce soit le cas pendant le confinement. Tous les travailleurs indépendants, tous les faux indépendants, etc., qui sont rémunérés à la mesure de leur activité, ils étaient complètement dans les choux. Le chômage partiel a permis de rémunérer partiellement, enfin 84%, les travailleurs qui ont un emploi. On voit bien que la supériorité de l'emploi sur le travail indépendant. Mais qui a conservé son salaire ? Les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, ce n'est pas leur emploi, c'est-à-dire leur poste de travail qui décide, qui est le support de leurs droits. C'est un attribut personnel, leur grade, leur qualification est personnelle. C'est un salaire à la qualification personnelle qui fait qu'il n'y a pas de chômeurs chez les fonctionnaires. Et c'est ce statut-là qu'il s'agit d'étendre à toute la population.
Le mot communisme fait peur. On lui préfère aujourd'hui souvent l'anglicisme des communs. Mais vous assumez un titre, un désir de communisme. Vous réhabilitez le mot sans crainte ?
Je le réhabilite d'abord contre post-capitalisme, anti-capitalisme, qui sont des mots vides. Il faut un contenu. Et communisme, c'est le contenu de ce que nous sommes en train de construire à la place du capitalisme qui s'était construit à la place du féodalisme. C'est pour bien montrer que nous sommes en train de construire un nouveau mode de production. Les communs, c'est des lieux Le mot des communs, j'y crois, je le pratique. Mais c'est des lieux d'expression du communisme.
Merci beaucoup Bernard Priot. Le recueil de vos entretiens avec Judith Bernard est publié aux éditions textuelles dans la collection Conversations pour demain.
On se quitte avec le dernier titre de La Femme, Paradigme. Demain, quand je me compare, je me console, point d'interrogation. Premier épisode, le Royaume-Uni avec l'économiste Catherine Mathieu. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.